Bonsoir. OK. Bon, je recommence où j'ai quitté l'autre fois. Et donc, en fait, on était encore sous le récit de la crise bancaire. Et donc, je vais terminer ça, mais aujourd'hui, je voudrais aborder le problème, en fait, de la crise souveraine. Et parler en particulier du rôle de la BCE pendant cette crise. La prochaine fois, il y aura un visiteur, donc Monsieur Nicolas Véron, qui nous parlera. Donc, on va partager les cours parce qu'on va parler de l'Union bancaire européenne. Donc, lui, il est un grand expert de l'Union bancaire. Et donc, c'est important d'avoir cette intervention parce que, en fait, un des points de mon histoire, c'est en fait que la résolution de la crise souveraine, en fait, était possible parce qu'il y a eu un grand compromis. Et dans le cadre de ce grand compromis, il y avait aussi donc l'union bancaire. Donc, Nicolas va nous parler de l'architecture de ces projets. Et donc, après, on aura notre huitième cours, que c'est le dernier. Et au mois d'avril, il y aura une session sur la réforme de l'Europe, donc, dans laquelle on va un peu reprendre tous les thèmes du cours, mais en propositive. Donc, dans lequel que je vais partager avec des autres personnes qui ont travaillé sur différentes propositions sur la réforme de l'euro. Donc, on va présenter des résultats donc, de cette table de travail. Et il y aura 2 heures, donc un panel de plusieurs économistes que moi, je vais coordonner. Et la possibilité aussi du public de donc poser des questions et interagir avec ces gens qui sont plus dans l'aspect pratique de la réforme. Voilà, donc on avait quitté notre histoire en novembre 2011, quand mon connational Mario Draghi a pris... donc est devenu président de la BCE et donc remplacé Jean-Claude Trichet. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait Draghi quand il est arrivé? Donc, il est arrivé en plein crise. La crise grecque était déjà, éclatée. Mais donc, nous, on n'a pas encore parlé de là. Donc, on a parlé jusqu'à présent de la première intervention sous la guide des Trichet, donc sur ses prêts à taux fixe de la BCE pour les banques. Et donc, quand Draghi est arrivé, en fait, on était en pleine crise bancaire et souveraine. Et le début de son intervention, de ces mesures, c'était en fait c'était une continuation de ce que Trichet avait fait. Mais c'est le ORT, donc Long Term Refinancing Cooperation, qui était mise en place par Trichet. Donc, lui... Il fait une autre, donc il refait un peu la même chose, mais avec en donnant aux banques un horizon plus long sur ses prêts. Donc en fait, c'est encore des taux à taux fixe, mais à 3 ans. Donc c'était un peu plus qu'une politique pour la liquidité à court terme. C'était un soutien plus important pour les banques. Donc, entre autres mesures de liquidité, aussi réduction du taux d'intérêt directeur. Et chose importante, il abandonne... il abandonne, les SMP, donc c'était le Security Market Program, qui étaient les programmes que Trichet avait mis en œuvre en 2010, qui étaient des achats de titres sur les marchés secondaires. Et je vais revenir à cette histoire plus tard, donc on tient ce point suspendu. Ici, je vais me concentrer sur la première de ces mesures, donc sur les opérations avec les banques. Et on reviendra aux souverains Donc, en fait, la différence, la différence entre la première étape de la crise, donc 2009, que je vais définir comme une crise de liquidité généralisée, c'est que maintenant, en fait, après 2 ans de récession, de crise souveraine et tout ça, la situation des banques en Europe s'était beaucoup empirée. Et donc, en fait, les banques n'avaient plus, la plupart des banques, enfin, surtout les banques dans certains pays, ils n'avaient plus seulement un problème de liquidité, mais un problème de solvabilité. Donc, c'était des banques qui, en fait, auraient dû être mises en résolution, enfin, un peu comme les États-Unis avaient fait. Donc, ici, donc, pour avoir une idée de la dimension des interventions de la Banque centrale européenne. Ça, c'est l'époque Trichet et ça, c'est l'époque Draghi. Donc, ça, c'est les bilans de la Banque centrale européenne. Donc, ça, c'est la première partie, LTRO 1, LTRO 2. Donc, c'était pas seulement à un horizon plus long, mais aussi avec des volumes plus importants. Aussi, pour avoir une idée de quel était le contexte dans lequel Draghi a dû intervenir, c'était maintenant un contexte dans lequel les besoins de financement, soit des banques que des souverains, avaient beaucoup augmenté. Ici, vous avez Bank Issuance et Bank Redemption. Oh, ça, c'est les banques et ça, c'est le gouvernement. Donc, des grands besoins de financement. Donc, dans cette phase, nous pouvons clairement voir que les banques qui bénéficient donc, de ces mesures de la BCE sont en fait les banques des pays périphériques. Et ça, en fait, on peut le voir dans cette graphique ici. Vous voyez que ça, c'est les prêts nets des banques centrales en pourcentage des actifs du système bancaire. Donc ça, c'est le bleu, c'est 2008, donc avant la faillite de Lehman Brothers. Évidemment, ces prêts augmentent avec la crise, mais ils augmentent surtout dans certains pays. Donc évidemment, les pays qui sont allés après sous un programme de la Troïka et donc qui ont reçu des financements européens, donc le Portugal, l'Irlande et la Grèce, mais aussi l'Espagne et l'Italie. Donc, il y a une grande augmentation en 2011 et 2012, ce qui ne se vérifie pas dans les pays du cœur de la zone euro, entre autres aussi la France. Donc, ça, c'est pour notre récit, ça, c'est important, parce que ça montre que donc, ces interventions de la BCE ont eu une connotation géographique. Et évidemment, dans cet esprit de neutralité des interventions d'une banque centrale, évidemment, c'est quelque chose qui a commencé à créer des problèmes de cohésion, même parmi les gouverneurs à cette époque, parce qu'en fait, les bénéficiaires, les institutions qui bénéficiaient, c'était aussi les institutions qui étaient dans les pays les plus fragiles. Et en fait, il y a une certaine corrélation entre la fragilité de l'État, donc on verra ça, et la fragilité des banques. Les achats de dettes souveraines par les banques du même pays, financés par un emprunt LTRO à 3 ans auprès de la BCE, ont permis. C'était des interventions qui étaient nécessaires pour garantir la stabilité financière. Donc, on peut dire, en fait, ex post, que c'était des mesures inévitables pour garantir la stabilité financière en absence d'une intervention d'autres genres par rapport aux banques. Et donc, là, ce sera notre discussion sur la nécessité d'union bancaire. À l'époque, il n'y avait pas une union bancaire. Mais en même temps, c'était des mesures qui ont créé des effets aussi négatifs. Les financements de ces banques auprès de la BCE ont permis d'intensifier l'interdépendance des bilans des banques et des États souverains Et en fait, cette corrélation entre les risques souverains et les risques des banques, c'est quelque chose sur lequel je vais toucher dans quelques instants dans le cours de la leçon d'aujourd'hui. Comme effet immédiat, évidemment, cette intervention a amélioré la profitabilité et donc la capitalisation des banques. Donc, on a aussi atténué les difficultés des financements rencontrées en particulier par l'Italie et l'Espagne dans ce contexte. En fait, c'est important de savoir que dans ces années-là, les investisseurs étrangers, soit les étrangers des autres pays de la zone euro, soit les étrangers en dehors de la zone euro, étaient en fait disparus. Du marché interbancaire et donc il y avait vraiment un problème de financement en particulier dans ces institutions dans les pays plus stressés donc plus risqués. Donc c'est un effet de ces mesures est que comme on a vu donc les rôles de la BCE c'était devenu un rôle d'intermédiaire. Donc la BCE donc, a remplacé les marchés privés et donc en accordant ses prêts aux institutions fragiles. Et donc l'effet de ça, c'était une augmentation des soldes du système de paiement européen qui s'appelle Target 2, Target 2. En fait, comment ça marche ici? Ici, vous voyez, donc ça, c'est les soldes entre les banques centrales du système de l'euro. Ici, j'ai regroupé donc les pays donc dans le bleu, donc les pays créditaires, c'est la France, l'Allemagne, l'Hollande et le Luxembourg et en rouge, là, vous avez la Grèce, l'Italie, l'Irlande, le Portugal et l'Espagne. Donc, les pigs, OK? Donc, les pays stressés. Et en fait, ça, c'est les soldes entre les banques centrales du système euro. Donc, comment ça marche, cette histoire du Target 2? Je vais dire quelques mots sur ça, parce que ça, c'était un effet des politiques de la BCE qui a reçu beaucoup d'attention, en particulier en Allemagne, qui était donc très alarmée pour les crédits que la Bundesbank était en train de dématérialiser dans ces situations. Donc, ces soldes reflètent les créances d'une banque centrale nationale à une autre au sein de l'eurosystème. Par exemple, quand un investisseur allemand ne renouvelle pas sa détention d'une obligation bancaire espagnole, la banque espagnole fait recours à l'opération à 3 ans de la BCE, donc l'ETRO2, pour financer ses actifs et utilise les réserves obtenues lors de cette opération pour rembourser l'investisseur allemand, l'obligation espagnole ayant eu le temps de mûrir. Les résultats de cet ensemble de transactions a été que la Bundesbank a accumulé des créances sous le système de paiement que vous voyez là. Les banques allemandes ayant en fin de compte accumulé des liquidités que l'on déposait sur leur compte de réserve à la Bundesbank lors du remboursement des flux de financement transfrontaliers privés initiaux. Et la Banque d'Espagne a accumulé des passifs sous le système Target 2 en raison de l'emprunt des banques espagnoles lors des opérations à 3 ans qui a nécessité la fourniture des liquidités. Donc, en fait, ça, si vous voulez, c'est quelque chose de technique. C'est simplement c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant parce que les banques se prêtaient, entre autres, sans passer par les bilans de la BCE. Une fois qu'on passe à travers les bilans de l'eurosystème, pas de la BCE, et donc, ces soldes augmentent. Alors, est-ce que c'est quelque chose de préoccupant ou pas? Ben, évidemment, si l'Hérault continue à exister, ce n'est pas un problème. C'est des soldes entre banques centrales, donc ce n'est pas quelque chose qui doit préoccuper personne. Mais si l'Italie sort de l'Hérault ou la Grèce sort de l'euro, évidemment, donc les banques centrales allemandes et françaises, etc., restent créditaires. Donc, dans un cas extrême de rupture de l'euro, ça peut devenir un problème. Et c'est pour ça que cette histoire reste un point d'alarme, surtout dans les milieux allemands. Voilà. Donc, en fait, on peut se poser la question que si la BCE a bien fait d'accorder des prêts à les banques des pays périphériques. En fait, est-ce que ça, c'est le rôle que la banque centrale doit avoir en cas de crise? Une des raisons pour lesquelles cette politique a été critiquée était aussi qu'en fait, ces prêts à terme, comme je l'ai dit l'autre fois, ce sont des prêts que l'eurosystème accorde sous garantie. Et les garanties sont des titres de la dette souveraine. Donc, entre autres, mais surtout des titres du secteur public. Et donc, en fait, il y a eu une espèce de mécanisme pervers dans lequel les banques achetaient les titres de ses propres pays, même si les pays étaient à risque avec une dette élevée, pour pouvoir utiliser ces obligations comme garantie dans les prêts qui demandaient à la banque centrale. Donc, en fait, il y a eu une espèce d'incentive cachée, incitation cachée pour les banques à acheter leurs propres dettes. Et donc, ces mécanismes ont augmenté la corrélation entre les risques du pays, donc la dette souveraine, et les risques des banques. En fait, ce qui s'est passé, c'est une espèce de renationalisation du système financier européen dans lequel les balance sheets des banques sont devenus beaucoup plus exposés au risque du propre pays. Donc, cette tendance à l'intégration financière qui caractérise les premières parties avant la crise du marché de l'euro, donc, s'est renversée et on est allé vers une situation de balkanisation, de fragmentation des marchés financiers. Donc, on peut voir aussi qu'en fait, ce n'est pas simplement une domestication, si vous voulez, des bilans, mais c'est aussi une substitution que les banques ont fait. On substitue à la place en fait, d'accorder des prêts. Les banques achetaient des titres et elles achetaient de ces titres pour les utiliser comme garantie pour obtenir de l'argent de la BCE. Mais donc ça n'a pas vraiment eu un effet sur les volumes de crédit que les banques accordaient aux entreprises et aux ménages. En fait, l'effet de donner, d'accorder des prêts aux banques, ce n'est pas traduit dans des prêts des banques au système économique. Et c'est plutôt traduit dans une substitution des bilans des banques, des actifs. Ils sont allés, donc ils ont des loans, donc les prêts sont descendus. Par contre, un pourcentage, les government bonds, donc les obligations d'État, ont pris plus d'importance dans les actifs des banques. Donc, c'est évidemment une des raisons une des facteurs qui a créé cette connexion des risques banques souverains. Ici, vous pouvez voir une autre façon de la voir. Vous avez pour différents pays donc les ratios entre les obligations d'État du propre pays divisées par les prêts aux entreprises nationale, donc domestic non-financial corporation. Et vous voyez que donc, ces problèmes, ces ratios augmentent surtout en Italie et en Espagne, qui étaient les deux pays plus sous stress dans cette période. Donc, moi, j'ai fait aussi des calculs un peu plus basés sur des modèles que vous pouvez voir ici. Donc, ça, c'est un modèle, c'est un peu les mêmes exercices contrefactuels que je vous aviez montré l'autre fois. Et c'est un modèle qui regarde, en fait, estime l'interaction dynamique entre plusieurs voies de bilan des banques, donc all the asset side and the liability side, et en considérant aussi des variables qui représentent les cycles économiques. Et donc, on se demande si la situation était similaire du point de vue de la dynamique du PIB et de la dynamique de l'inflation aux crises précédentes, est-ce qu'on aurait vu les mêmes déplacements dans des bilans, les mêmes changements de composition dans les bilans des banques? Et en fait, quand vous voyez les points, quelles sont les observations qui vont en dehors des bandes, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé, donc qui ne s'était pas passé avant. Et les grandes anomalies, anomalies. Donc, en fait, le premier cadre sous la gauche est domestic loans to firms and households, donc aux entreprises et aux ménages. En fait, vous voyez, dans la première partie de la crise, qui est celle qu'on a touchée l'autre fois, en fait, évidemment, il y a eu une diminution des prêts accordés aux entreprises, mais ça, c'est tout à fait normal si on considère le fait que donc, c'est la phase du cycle économique. Donc, les noirs sont dans les intervalles de confiance. Par contre, donc, en fait, la première partie de la crise, ce n'était pas une crise de manque de crédit à l'économie. En fait, c'était plutôt une crise de liquidité. En fait. Mais dans la deuxième partie de la crise, on voit aussi que donc, les prêts vers les ménages et vers les entreprises diminuent dans ce sens-là, relativement à l'expérience historique. En fait. Donc, on va un petit peu plus de là que jusqu'à un graphique descriptif, en fait. C'est par rapport au passé et en conditionnant par la phase du cycle, c'est quelque chose d'abnorme. Et ici aussi, c'est quelque chose d'abnorme, c'est des holding of domestic government debt security. Donc, c'est en fait la proportion des obligations souveraines du propre pays. Et ça, c'est ça, par contre. Il y a une diminution donc des obligations des autres pays et une augmentation des obligations des propres pays. Donc ça, c'est les deux grands trucs qui se sont passés dans les bilans des banques. Donc, en résumé, de 2009 à 2011, il y a eu des caractéristiques, une substitution des prêts aux obligations d'État, deuxième caractéristique est home bias, donc une préférence pour les obligations du propre pays dans la détention, donc une home bias dans la détention obligataire. Les premiers phénomènes s'expliquent en partie par ce que les économistes appellent carry trade. Ça veut dire donc on prend ça veut dire qu'on peut faire des profits grâce à la politique des LTRO, parce que on peut emprunter à un taux plutôt bas à la BCE et réinvestir donc sous des obligations d'État. Ça, c'est la substitution des prêts aux obligations d'État. Donc, les banques deviennent des grands détenteurs des obligations d'État et donc cessent de faire la fonction traditionnelle que c'est de prêter aux entreprises. Les home buyers s'expliquent principalement par une fuite vers la sécurité, donc flight to safety, Ça veut dire qu'on a une préférence pour les obligations d'État plutôt que des choses plus risquées comme les prêts bancaires. Mais aussi par une espèce de moral suasion, parce qu'évidemment, dans une situation de stress, il y a une obligation implicite des banques nationales à acheter les obligations du propre pays. Et donc, c'est une espèce de tous les incentifs, en fait, à aller dans ce sens-là. Les effets macroéconomiques de tout ça, sont, la conséquence est que, en fait, le système a survécu, donc, parce que c'est très facile à critiquer, mais il faudrait voir qu'est-ce que c'est les contrefactuels si la banque centrale n'était pas intervenue. Et en fait, on peut voir que du côté des liabilities, donc des dépôts, donc la M3 est soutenue par ces... Donc M3, vous vous rappelez, c'était la masse monétaire. Je ne l'ai pas ici, je l'aurai plus tard. Donc M3 était soutenue. Mais si on regarde, par contre, la composition de la partie actif, on a ce phénomène éphémère. Donc, au niveau macroéconomique, qu'est-ce qu'on on voit, en fait, c'est que même si le volume de ces prêts bancaires était beaucoup plus élevé dans la prêt-richet, en fait, la production industrielle et les prêts bancaires, donc je ne sais pas quoi c'est fait, je ne sais pas... C'est les prêts, c'est les flux de prêts aux entreprises. Donc, vous voyez, dans la première partie, il y a eu une énorme chute de la production industrielle, évidemment aussi une chute des prêts. Mais ça, c'est toujours des choses qui sont très corrélées. Dans la deuxième phase, on a une chute encore de la production industrielle, une chute de la production industrielle moins importante, mais une chute des prêts qui, relativement à la chute de la production industrielle, était plus importante. C'est que ça veut dire que, donc, effectivement, il y a quelque chose de, vraiment du système financier qui a mal fonctionné, et même si l'intervention était massive. En fait, comme on peut voir dans les bilans de la Banque centrale. En fait, ici, donc, c'est la période de la deuxième récession européenne. Vous voyez ici les PMB de la zone euro en rouge et celle des États-Unis en bleu. Et en rose, vous avez les récessions comme étaient classifiées par les économistes. Donc, il y a une dating des récessions. Donc, évidemment, ça, c'est la grande récession Lehman, que tout le monde, les États-Unis, la Chine, le Japon, le monde entier a vécu. Mais ça, c'est la deuxième récession qui est vraiment une caractéristique de la zone euro. Et c'est très lié à ces mécanismes financiers sur lesquels je vais passer encore un peu plus de temps et sur la crise souveraine. Qui a eu des effets aussi sur l'activité économique. Donc on a payé un prix très élevé pour être peut-être arrivé un peu en retard à résoudre ces problèmes de solvabilité des banques. Donc on a cherché de les attacher avec des politiques de liquidité, parce qu'en fait, c'était ça, c'est que était dans les mandats de la BCE, mais on n'a pas abordé de façon agressive les problèmes de solvabilité. Ça donc a créé ces mécanismes que j'ai décrits dans lesquels les banques ont emprunté de l'argent, mais en fait, pour acheter des obligations d'État à la place de prendre des risques. Et donc, à la fin, le système économique, l'économie réelle, a eu une souffrance liée à ça. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de cette histoire, en fait, des deux crises, en fait, si vous voulez, j'ai décrit deux épisodes d'intervention de la BCE, 2008-2009 jusqu'à 2010, et après Draghi 2011-2012. Donc, je n'ai pas fait une narration historique chronologique, mais c'est en fait la comparaison des deux épisodes. Après, maintenant, je reviendrai à l'arrière parce que je vais toucher toute la question de l'intervention souveraine. Mais dès la comparaison de ces deux épisodes, donc 2008-2009 et 2011-2012, ce qu'il faut retenir, je pense, les leçons, c'est que donc, la BCE était prête pour faire des politiques de liquidité. Un grand succès sur la première phase, parce que la crise peut être décrite comme une crise de liquidité généralisée, mais en fait, derrière, il y avait aussi des problèmes de solvabilité qui se sont empirés dans les années et qui n'étaient pas abordés. Et la BCE a continué à utiliser les mêmes outils qu'ils avaient utilisés en 2009. Pas parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, mais parce que, en fait, la solvabilité des banques, ce n'est pas dans le domaine d'une intervention d'une banque centrale, c'est plutôt dans le domaine de l'intervention du gouvernement, de l'État, parce qu'effectivement, on met à risque l'argent de taxpayers. Donc, il y a une division de fonctions, justement pour toutes les raisons qu'on a discutées, de la limite des risques qu'une banque centrale peut prendre autant qu'institution indépendante. Donc, en fait, malheureusement, les problèmes de liquidité et de solvabilité sont strictement liés. Donc, faire une claire distinction entre la liquidité et la solvabilité, c'est impossible en temps réel. Et c'était un peu ça le problème. Donc, dans le manque d'autres outils, ils sont quand même intervenus et je suis convaincue que c'était peut-être la bonne chose à faire parce qu'en fait, ne pas l'avoir fait aurait été peut-être pire. Mais ça a identifié un problème, donc un manque d'outils au niveau européen pour aborder le problème des banques, qui en fait, on n'a pas encore résolu, parce qu'en fait, même si on a fait l'union bancaire, cette union bancaire reste quand même pas complète. Donc ça, ce sera ce qu'on discutera la fois prochaine. Voilà, donc je viens maintenant... au sujet d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la crise souveraine. Et en fait, les problèmes, vous allez voir, sont très similaires, mais un peu plus, même plus compliqués, parce qu'il y avait une ambiguïté, effectivement, dans les traités sur la mesure dans laquelle la BCE pouvait intervenir pour financer un État souverain en crise de liquidité. Et donc, la première expérience a été la crise grecque et d'aujourd'hui, en fait, la façon dans laquelle la BCE a abordé la crise grecque reste encore très controversée. Et je pense que si vous parlez à différents économistes, chacun a une idée différente. Donc, moi, je vous donnerai la mienne, mais voilà. Alors, les plans de prochains 45 minutes, je vais parler un peu de la banque centrale en tant que prêteur de dernier ressort. Enfin, ça, c'était un thème de ma leçon inaugurale, donc je vais revenir un peu là-dessous. Après, je vais vous donner l'historique, en fait, comment ça a commencé, la Grèce, et donc quelles sont les différentes façons de l'aborder. Et je vais revenir à ce problème de la boucle diabolique, donc de la corrélation du risque bancaire et du risque souverain. Et je vais vous parler de deux interventions de la BCE, donc le Security Market Program, qui était la première intervention de la BCE dans les marchés des obligations souveraines, et de OMT, donc Opération Monétaire sur Titre, qui c'était en fait l'intervention de Draghi en 2012. Donc, en général, quel est le problème des financements de l'État souverain? J'ai parlé des actions de la BCE en réponse à une crise du système bancaire. Mais évidemment, la BCE a été confrontée à une crise également importante vis-à-vis des États souverains de la zone euro. Et en fait, après avoir été rapide et efficace, comme on l'a vu dans les rôles de prêteur en dernier ressort pour les banques, la BCE a hésité, par contre, à faire la même chose lorsque la crise souveraine s'est manifestée. Et en fait, il y a de bonnes raisons pour cette hésitation. En fait, les traités interdisaient explicitement le financement direct des gouvernements. Et néanmoins, les arguments avancés par plusieurs économistes étaient que la Banque centrale, dans l'union monétaire, devrait agir en tant que prêteur en dernier recours à ses États membres. Et c'est pour des raisons très similaires à celles qui justifient les rôles de prêteur de dernier recours originel aux banques. Et l'argument est le suivant. En dehors d'une union monétaire, tout État souverain émet des obligations dans sa propre monnaie. C'est pour cela qu'il peut offrir une garantie implicite que ses obligations seront remboursées, car on peut toujours compter sur la banque centrale de l'État pour monétiser la dette si nécessaire. Ce n'est pas une bonne idée, mais c'est le grand pouvoir de la banque centrale. Donc, c'était la première leçon, le premier cours, on a vu cette... Donc, la banque centrale est de facto le prêteur de dernier recours à son souverain. Donc, dans un cas de crise, de guerre et tout ça, si vous vous rappelez, donc, les bilans des banques centrales dans l'histoire, non, il y a ces épisodes de grand stress dans lesquels, en fait, les bilans des banques centrales augmentent pour financer la dette. Mais au sein d'une union monétaire, les États membres émettent des obligations dans une devise qui, dans une certaine façon, est étrangère. Parce qu'en fait, la Banque de France n'émet pas de francs. C'est Francfort, donc c'est le gouverneur de toute la zone euro qui émet l'euro. Mais si l'État français, si Macron décide d'augmenter la dette française et demande à la Banque centrale française, à la Banque de France, de monétiser sa dette, en fait, ça, on ne peut pas faire de toute façon parce que la Banque centrale est indépendante, même aux États-Unis, on ne peut pas faire ça. Mais en fait, dans un cas limite, il y a une espèce de garantie donc, que bon, la Banque de France... arrivera à aider donc son État souverain en monétisant la dette. Et bon, dans cette construction de l'euro, ça c'est pas possible. C'est comme effectivement comme si chaque État membre était comme un pays en développement qui est endetté en dollars. Nous on est endetté en euros, mais l'euro n'est pas notre propre monnaie. Enfin, l'est dans un sens fédéral. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une crainte des investisseurs, un doute. Qui va être le garanteur de la dette souveraine dans un pays de l'euro? Donc ce problème s'était jamais manifesté. Donc la première fois qu'il s'est manifesté, c'est dans le cas de la Grèce, dans lequel les investisseurs ont testé les systèmes pour voir qui va garantir. Est-ce que la BCE va sauver la Grèce ou pas? Donc, voilà. Donc, il y a une instabilité de facto dans cette construction fédérale, au moins de ne clarifier exactement quelles sont les conditions dans lesquelles la BCE peut intervenir dans un cas d'une crise souveraine. Donc, les backstops, en fait. Est-ce que la BCE a vraiment ses rôles de prêteurs de dernier recours ou pas? Donc ça, c'est un problème qui n'est pas encore tout à fait résolu. Donc c'est un problème encore déjà. Mais donc on va regarder, on va voir maintenant les origines de cette discussion. Voilà, donc ça c'est aussi c'est un graphique que j'ai montré pendant ma leçon inaugurale qui me montre un peu les problèmes. Donc, évidemment, avant que l'euro soit, avant le début de l'euro, donc chaque pays avait un différent risque, et ce risque est reflété dans les taux d'intérêt des obligations d'État. Ça, c'est les obligations à 10 ans. Donc, vous voyez une certaine hétérogénéité, donc avec des pays comme l'Allemagne, la France, qui avaient des obligations avec des rendements très proches, mais quand même des pays plus risqués comme l'Italie et l'Espagne. L'Espagne, parce qu'elle était un pays fragile pour ses problèmes de secteur financier, et l'Italie, parce qu'il a une dette publique historiquement beaucoup plus élevée que la France et l'Allemagne. Une fois qu'on est rentré dans l'euro, tout le monde, they fall asleep. Okay? Donc, et implicitement, les marchés se sont dit, bon, il y a la BCE, la dette de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne est garantie implicitement par la Banque centrale européenne. Donc, la dette grecque a les mêmes risques que la dette allemande. Pendant ces années ici, il n'y avait aucune différence entre les obligations de la dette sur la dette grecque et sur la dette allemande, que c'est un paradoxe. Une fois que, bon, 2000, ici, il y a Lehman Brothers, mais Lehman Brothers, c'est une histoire du choc global, crise de liquidité, donc, bon, c'était l'interbancaire, ce qu'on a vu, donc, qui n'avait pas encore touché les souverains. Mais ici, donc, la faiblesse de l'économie continue. En Grèce, on verra, il y a des épisodes idiosyncratiques particuliers dans lesquels Papandreou est arrivé au gouvernement et a révélé que les comptes étaient faux. Donc, c'était une révélation pour les marchés que la dette grecque était beaucoup plus élevée qu'on avait cru. Donc, les marchés commencent à s'inquiéter. Mais donc, ils passent d'une situation de totale tranquillité à une situation de schizophrénie complète. Donc, c'est un extrême à l'autre. Parce qu'ici, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se demandent qui va sauver la Grèce, qui va sauver l'Irlande, qui va sauver le Portugal. Et une fois que la Grèce, le Portugal et l'Irlande vont sous un programme avec les FMI, la Banque centrale européenne, la Commission, etc., le marché commence à se demander mais qui va sauver l'Italie, parce que l'Italie est trop grande pour être mise comme ça, être sauvée par des petites interventions. La taille de la dette publique italienne est énorme. Et donc, quelle est la force de ce système pour garantir la stabilité? Et donc, ça, c'est un peu l'histoire. Et donc, les dilemmes dans lesquels la BCE devait intervenir, parce que d'une façon, donc, pour des raisons du traité, pour des bonnes raisons de Chinese Wall entre les fiscales et les monétaires, elle était très réticente à intervenir, mais en même temps, il y avait aussi la crainte de la stabilité financière. Donc, ces deux objectifs étaient en contradiction. Voilà. OK. Il y a des très bonnes raisons pour qu'un système se dote d'un prêteur de dernier recours. En fait, l'idée des économistes est que dans une économie illiquide, mais solvable, une économie illiquide et solvable peut être attaquée par les investisseurs et donc peut être sujet à ce qu'on appelle une crise autoréalisatrice, dans laquelle les gens, ils ont doute sur qui va intervenir, donc ils demandent un rendement encore plus élevé pour leur investissement, ce qui empire la situation, ce qui me pose une pression. Donc ça, c'est une crise autoréalisatrice qui donc peut mener à un défaut, même si le problème est un problème de manque de liquidité temporaire plutôt qu'un problème de solvabilité. Donc, dans ces situations-là, on peut se dire ben, peut-être la Grèce est insolvable. Okay? En fait, la FMI, c'est ce qu'il a dit à cette époque-là. Mais l'Italie, est-ce que l'Italie est insolvable ou pas? L'Italie peut continuer avec un taux d'intérêt. Ça dépend du taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt est plutôt modéré, l'Italie est solvable. Le Japon a une dette de 230% sur le PIB et il vit tranquille. Enfin, plus ou moins tranquille. OK. Bon, donc en fait, la question, c'est vraiment une question d'aspectative, de comment les marchés se coordonnent autour d'une idée de quelles sont les institutions qui vont garantir cette stabilité. Donc, l'autorité monétaire a une énorme responsabilité ici parce que pour éviter les défauts, donc, dans une crise de liquidité, donc, il y a un argument pour qu'une banque centrale intervienne pour bouger l'économie d'un mauvais équilibre dans lequel il y a cette espèce de truc autoréalisateur vers un bon équilibre dans lequel les risques, donc l'appréciation du risque change parce que bon, et donc ça, si le problème n'est pas un problème de solvabilité, bon, donc ça se résout le problème de liquidité, donc voilà, ça doit résoudre la situation. Ok. Donc, sur cette histoire, je pense que la plupart des économistes sont d'accord. Donc, si le problème est de liquidité, bon, il faut intervenir. Mais est-ce que c'est liquidité ou solvabilité? Ça, on ne sait pas. Ça, c'est le problème, exactement comme dans les banques. Dans les cas dans lesquels les problèmes sont des problèmes fondamentaux, la raison pour pas intervenir, c'est en fait le problème habituel d'aléa moral. Donc l'idée que si les États ou les institutions bancaires, comme on a vu, s'attendent à l'intervention de l'État, donc ils ont une incitation à mal se comporter. Et donc pour éviter l'aléa moral, il faut avoir une limite à ce genre d'intervention. Et donc, c'est toujours subtil, cette distinction, et où ça commence, les problèmes. Aussi, un autre, même si l'action de l'autorité monétaire pour amener l'économie vers un bon équilibre se justifie, il faut être conscient que dans certains états du monde, les fondamentaux pourraient être si mauvais qu'il pourrait y avoir défaut malgré l'achat d'obligations par la banque centrale. Donc, la banque centrale intervient, mais les problèmes ne seraient pas résolus. Même on donne des incitations négatives, mauvaises, et alors, en cas de défaut, évidemment, si la banque centrale intervient et donc il détient dans son bilan des obligations d'État, donc il y a un risque de crédit. Et donc, les risques de crédit, c'est un risque pour les contribuables, pour les taxpayers. OK. Voilà. Et donc, ça, on a en discuté beaucoup dans ces cours, mais donc, c'était toute la discussion de la première leçon dans laquelle bon, on a cherché de comprendre ces risques de crédit dans un bilan d'une banque centrale. Voilà, donc ça c'est plus ou moins la discussion générale. Donc on comprend qu'il y a un risque de crédit, mais il y a aussi une raison de stabilité financière pour intervenir. Il y a une bonne raison d'intervenir, c'est la crise de liquidité. Pas une bonne raison, c'est la crise de solvabilité, mais on ne sait pas. En temps réel, c'est difficile de distinguer. Donc, avec ce background, regardons-nous qu'est-ce qui s'est passé en Europe en 2010. Donc, les origines de la crise souveraine de la zone euro, ils ont pour origine en fait un problème de solvabilité. À différence des banques, c'était un problème de solvabilité. Et en fait, c'est le fait que la situation budgétaire de la Grèce s'est révélée insoutenable et a conduit à ce qu'on appelle funding strikes, une grève de financement. Donc les marchés ne voulaient plus souscrire, acheter des obligations. Donc l'élection d'un nouveau gouvernement grec à l'automne 2009 a conduit à une reformulation de la situation budgétaire de la Grèce. et un regain d'inquiétude quant à la viabilité des finances publiques. Les préoccupations concernant l'exactitude des statistiques des finances publiques grecques et plus fondamentalement sur la situation budgétaire sous-jacente se sont multipliées, d'autant que les ralentissements macroéconomiques et les engagements implicites envers les secteurs financiers menaçaient de se détériorer davantage dans le contexte de la crise financière. Donc, dans ces contextes, le financement du gouvernement grec est devenu plus difficile à mesure que les problèmes de solvabilité montaient. Et voilà, il y a vous pouvez les voir dans ces graphiques, en fait, l'écart entre les taux d'intérêt sur les obligations grecques et les taux d'intérêt sur les obligations allemandes commence à s'élargir. Donc, pour vous donner quelques chiffres, les déficits budgétaires projetés pour 2009 en Grèce était 7%, et quand Papandreou a révélé les problèmes, ils étaient immédiatement projetés à 12%. Donc, c'était comme un choc, un grand choc exogène, d'une certaine façon, que c'était une révélation d'une problème de comptabilité qui n'était pas... Donc, ce grand choc a érodé complètement la confiance du marché en Grèce. Il y a eu un downgrading par les rating agencies, donc Fitch, et après Standard & Poor's, et après Moody. Donc, ici, donc, vous voyez que de fur et à mesure que tout ça s'est passé, donc, les taux sur les obligations augmentent. Et donc, à un certain moment, le gouvernement grec n'avait plus aucune possibilité de se refinancer sur les marchés, et donc il fait recours à quoi ? À l'FMI, au Fonds monétaire international. Mais il n'y avait pas que la Grèce. Des autres pays aussi commençaient à montrer une certaine fragilité, l'Irlande et l'Espagne. L'Irlande et l'Espagne, surtout pour une fragilité concernant le secteur bancaire. Dans le cas de l'Irlande en particulier, le secteur bancaire était beaucoup très, très large par rapport au PIB du pays. Et donc, une crise financière pouvait immédiatement se transformer dans une crise de l'État. Et un peu au Portugal aussi, la fragilité était due à un très mauvais niveau de compétitivité internationale qui se réfléchissait dans les comptes avec l'extérieur. Et en Italie, les problèmes sur la dette du secteur public. Mais comme vous voyez, en fait, les symptômes, c'était surtout la Grèce au début, après, donc, les autres pays étaient contagés. Donc, il y a eu un... Ce qui est important à souligner, c'est que, en fait, l'origine de cette fragilité pour plusieurs de ces pays, ce n'était pas une origine fiscale. Donc, ici, vous avez les déficits à ce pourcentage du PIB. Vous pouvez regarder l'Espagne. L'Espagne, c'est la ligne verte, là, sous le tableau, là, ici. Vous voyez qu'avant Lehman Brothers, en fait, l'Espagne avait un surplus budgétaire. Donc, en fait, la fragilité de l'Espagne venait de la bulle de real estate et donc d'une exposition des banques à des actifs très fragiles. Donc, en fait, avec la récession, donc cette bulle éclatée et les secteurs financiers étaient atteints, mais ce n'était pas un problème fiscal. Et ça, c'est important à le dire parce que dans les récits de la crise, surtout des parties Europe du Nord et Allemagne, les facteurs déclenchants individués comme un problème fiscal, donc de ne pas avoir respecté les règles fiscales de l'Europe. Mais en fait, dans la plupart des cas, ce n'était pas le cas. Donc ici, l'Espagne, c'est important, mais aussi, intéressant, mais aussi l'Irlande. Aussi, l'Irlande était en surplus, mais avec la crise bancaire, regardaient, en fait, ils sont passés dans une situation de surplus, une situation d'énorme déficit, très, très rapidement. Ça, c'est un énorme choc. Ce n'est pas quelque chose de graduel. C'est un choc. Enfin, c'est énorme, hein, c'est presque 35 % de déficit public. Hein. Et voilà, donc, bon, effectivement, la Grèce était différente. Donc, la Grèce était déjà en déficit avant l'Imabrade, donc c'était une fragilité du type fiscal et bancaire et fiscal et tout ça. La même chose pour le Portugal et la même chose pour l'Italie. Et l'Italie surtout parce que, bon, étant donné que la dette italienne était si énorme, donc la charge des taux d'intérêt en Italie est toujours très lourde. Donc le problème de l'Italie, c'est qu'elle a un surplus primaire, mais un déficit parce que bon, c'est un énorme coût parce qu'elle doit repayer les taux d'intérêt sur la dette chaque année. Voilà, donc ça c'est pour dire que donc les raisons étaient multiples. Bon, c'était pas ici que donc c'est pas les bouts de secours de parler de ces raisons, mais bon, c'était derrière donc c'était le contexte dans lequel la BCE s'est trouvée à opérer. Donc, ok, donc dans ce contexte, je vais avant que j'aborde le problème de l'intervention de la BCE. Je vais dire quelque chose sur la boucle diabolique, okay, comment ça marche. En fait, j'en ai déjà parlé, mais donc, on a vu que certains pays étaient donc atteints par une crise fiscale, la Grèce et peut-être le Portugal, des autres par une crise de style financière, mais l'Irlande et l'Espagne, aussi Chypre. Mais en fait, les deux choses, dans une situation de crise, devient exactement pareil. En fait, c'est la même chose. Vous pouvez partir du bilan d'une banque, ici. Donc, s'il y a un stress sur le bilan d'une banque, par exemple, parce qu'il y a un risque d'une bank debt, un equity risk, donc, la banque devient fragile et si, donc, pour éviter une crise du système financier, l'État doit intervenir pour sauver la banque, donc il y a une probabilité d'un bail-out, donc sauvetage bancaire de la part du gouvernement. Évidemment, ça, c'est un coût pour l'État et donc, c'est quelque chose qui va sous la dette. Et donc, ça va devenir un sovereign debt risk. En plus, une banque fragile qui a beaucoup de loans non performing on the asset side, bon, c'est un bilan lourd, donc il est empêché de prêter à l'économie réelle, et donc ça a aussi un effet sur l'activité économique réelle, c'est que donc ça veut dire qu'il y aura moins de capacité de tax revenues, c'est que aussi un poids sur les risques souverains. Mais s'il y a un poids sur les risques souverains, donc les sovereign bonds qui sont dans les actifs de la banque, donc tout d'un coup, ils ont un risque qui aussi va avoir un poids sur le bilan de la banque. Donc ça, c'est exactement ce genre de corrélation qu'on a si les bilans ne sont pas très diversifiés. Donc, les mécanismes que j'ai décrits dans la première partie aujourd'hui, quand je disais que donc, les banques avaient une incitation à acheter les obligations de son propre État, dans cette situation, était devenu un grand problème. Parce que donc, si la banque était... Si le souverain est à risque, donc ces risques... en fait, aide à les bilans de la banque. Si la banque donc, est fragile, ça multiplie les risques souverains, etc. Donc, ça, c'est une boucle. Et, ça s'appelait donc le diabolic loop, la boucle diabolique. Et en fait, beaucoup de la discussion européenne aujourd'hui, c'est pour changer la réglementation bancaire, pour donner une incitation à la diversification dans les bilans des banques. Donc, donner une incitation aux banques à diversifier leurs actifs. Mais évidemment, je vous montrerai des données qu'encore aujourd'hui, en fait, les bilans des banques, surtout en Italie et en Espagne, ont une connotation nationale très forte. Donc, aller vers une diversification aura des implications aussi de la stabilité financière, donc c'est très difficile d'échanger des régimes. Voilà. Ce genre de... Ça, c'est la fragmentation dans le secteur financier. Et bon, j'ai plusieurs graphiques, en fait. Je ne vais pas vous donner tous les graphiques. En fait, en gros, les points ici est de dire que ce qu'on a vu, une aversion au risque a pris la forme de renationaliser l'activité économique, donc de retourner vers une situation de nationalisation du système financier, donc de venir à l'arrière par rapport au processus d'intégration financière en Europe, qui a fait si que donc les banques étaient beaucoup plus exposées au risque national. C'est qui a créé cette corrélation des risques entre banques et États. C'est que, je ne sais pas si c'est un magnifique graphique que j'ai pris beaucoup de temps à faire. Donc, je peux peut-être le distribuer parce que je n'ai pas le temps maintenant de décrire tout. Mais ça, c'est tous des indicateurs pour dire la même chose, en fait, pour vous donner une idée de l'ampleur de cette balkanisation du système financier. Donc, pourquoi ça c'est important dans notre contexte? Parce qu'en fait, quand on dit que la BCE ne devait pas intervenir au niveau d'État, mais devait intervenir seulement pour les banques, en fait, les deux choses sont très corrélées dans une crise, surtout dans une union monétaire, que dans une situation de normalité, a une tendance à s'intégrer de plus en plus avec les autres pays, mais des situations de stress il y a peut-être une fuite, donc on revient vers la nationalisation et donc on se retrouve dans cette corrélation avec une banque centrale unique. Okay. Et donc maintenant, j'ai encore 5 minutes pour vous donner le début de la première réponse à la crise grecque. Donc ça, c'est encore du contexte. Maintenant, on a parlé de Papandréou arrive, donc il révèle la situation de la Grèce. Les autres pays étaient aussi fragiles. Ils n'étaient pas seulement fragiles, mais la fragilité avait produit de cette corrélation entre risque bancaire et risque fiscal. Et donc, voilà, the big question pour la BCE, c'est dans cette situation, est-ce qu'avec la Grèce qui donc va vers les fonds monétaires internationaux pour demander un prêt, parce qu'il ne pouvait plus accéder au marché, est-ce que la BCE devait intervenir ou pas? Bon, ou au contraire, est-ce que la Grèce pouvait donner la possibilité à la Grèce de restructurer sa dette et donc de pénaliser les créditeurs? Ou autrement, est-ce que la Grèce pouvait demander des prêts bilatéraux aux pays de la zone euro, à l'Allemagne, à la France, etc.? Donc, il y avait plusieurs options sur la table. Donc, en fait, c'était très difficile de suivre chacune de ces possibilités. Ben, l'autre possibilité aussi, c'était de dire à la Grèce, goodbye, vous sortez de la zone euro, la Grexit. Et donc, effectivement, la Grexit avait pris un certain poids parce que les traités exerçaient beaucoup de limites sur l'intervention possible. Donc, il y avait ces règles de non-financement monétaire. Donc, ça veut dire que la BCE était interdite d'agir par rapport à un pays en particulier. Il y avait aussi l'interdiction de sauvetage, donc des no bailout clauses dans les traités, donc ça qui empêchait un gouvernement européen de sauver un autre gouvernement européen. Ça, c'était vraiment le cœur du traité de Maastricht, comme on l'a décrit. Donc, la BCE s'est retrouvée dans un impasse. D'un côté, il craignait, à juste titre, qu'autoriser un défaut sur la dette souveraine d'un pays de la zone euro menaçait ces pays de l'effondrement financier. Les systèmes bancaires détenaient une quantité importante de dettes souveraines, donc une grande partie servait à ce stade de la garantie pour les prêts auprès de la BCE. Et si les autorités nationales avaient été contraintes de revenir à une monnaie nationale, donc dans le cas Grexit, donc on aurait pu penser donc l'effet aurait été sûrement un effondrement du système bancaire européen aussi, parce que donc parmi les créditeurs de la Grèce, il y avait les banques françaises, les banques allemandes, etc. Donc, en plus, donc, il y avait aussi une crainte de contagion à d'autres pays. En fait, la contagion s'est révélée, comme on a vu dans les graphiques sur les taux d'intérêt. Donc, la BCE était très contre donc, un défaut de la Grèce, une restructuration de la Grèce, parce qu'elle craignait donc, une contagion aux pays comme le Portugal et l'Irlande, qui étaient aussi très fragiles. Mais la BCE ne peut pas intervenir tout seul pour bloquer les défauts, pour éviter les défauts. Parce que donc il y avait cette limite du traité. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, la BCE? Donc, ça commence cette histoire assez compliquée, franchement, qui n'était pas vraiment encore complètement comprise dans les détails. Donc, la BCE ne peut pas agir toute seule, mais la BCE est une institution indépendante. Donc, en fait, l'habilité de se coordonner, en plus dans une fédération asymétrique, est très difficile. Mais évidemment, ce que la BCE fait dans ces années-là, donc c'est encore les années de Trichet, donc maintenant je suis en train de revenir à l'arrière, est de commencer à négocier avec le gouvernement pour les convaincre à mettre quelque chose ensemble pour pouvoir sauver la Grèce. Et éviter à laisser la BCE toute seule dans ces interventions qu'elle ne pouvait pas faire aussi pour les limites du traité. Donc, en fait, en mars 2010, un paquet est convenu entre les pays de la zone euro et cela impliquait une combinaison de prêts bilatéraux gouvernementaux à la Grèce, avec le soutien du Fonds monétaire international. Et donc, c'est une espèce de fil de sécurité. Donc, c'était aussi... Là, il y a une discussion sur les rôles du Fonds monétaire international, parce que, bon, nous, on est une fédération, pourquoi demander au Fonds monétaire international d'entrer dans cette histoire? Et en fait, la BCE, dans ces situations, s'est opposée à l'idée d'avoir les FMI dans les paquets. Et en fait, Trichet en particulier poussait pour que en fait, les pays européens se mettent d'accord pour construire un paquet coordonné des pays européens en soutien de la Grèce. Mais en fait, les principes de la participation de FMI, et c'est un principe très cher aux Allemands, et à la fin, la BCE accepte. Voilà, les paquets est finalement... on s'accorde sur ces paquets de 110 milliards, duquel 30 milliards provient du FMI. Très important dans cette situation, les pays européens s'est mis d'accord pour créer un mécanisme de stabilisation européenne qui impliquait donc une certaine force financière pour les soutiens aux pays en crise. C'était les FSF qui après devient les SM, etc. Donc c'est maintenant une construction, si vous voulez, d'une nouvelle institution dans les milieux de la crise. Bon, mais cette initiative n'a pas permis de rétablir la confiance des marchés. Bon, c'était important, mais ce n'était pas suffisant. En fait, une fois qu'une crise est déclenchée, c'est très difficile d'échanger la perception des marchés. Et en particulier, il y avait ce problème que donc, la BCE ne voulait pas accepter, donc avait beaucoup insisté sur le fait que les avoirs du secteur privé devaient rester subordonnés, junior, aux emprunts publics. Donc, en fait, dans les prêts, il y a toute une hiérarchie. Et en fait, la BCE a beaucoup insisté sur les principes que le crédit de la BCE devait rester senior par rapport aux dettes privées. Pourquoi ? Parce que dans un cas d'un défaut, elle voulait défendre les principes que les taxpayers européens ne devaient pas être affectés par le sauvetage de la Grèce. Et voilà, ça, c'était un bon principe pour notre principe que la Banque centrale ne doit pas s'engager dans des opérations fiscales, mais ce n'était pas un bon principe pour tranquilliser les marchés. Parce que les marchés, donc, ils se sont dit, ah, alors, voilà, donc... Et voilà. Et donc, ces programmes d'achat des titres, les SMP, ils partent sans une grande crédibilité. Voilà, donc maintenant, moi, je termine et je reprendrai la prochaine fois ici. Donc, ça, on parle d'ici. Ça, c'est donc, une fois que ce premier paquet échoue, donc la BCE répond avec un programme d'achat sur les marchés secondaires des titres grecs. Mais étant donné que la chose était tellement controversée, donc, dans la communication, elle dit ça va être un truc temporaire, je vais le faire, mais ben, justement parce que c'est une catastrophe. Et deuxième chose, je suis senior, donc la dette de la BCE, donc les obligations que la BCE achète sont senior par rapport à la dette privée. Donc, de ces deux caractéristiques, la manque de crédibilité de ce programme. Donc, ça, donc, c'est la première chose que la BCE fait. Voilà, c'était la première fois qu'en fait, la Banque centrale européenne intervient dans les marchés secondaires, mais en achetant des titres publics. Donc, jusqu'à ce moment-là, c'était toujours des prêts par rapport aux banques. Ça, c'est la première fois que donc la Banque centrale européenne intervient sur le marché souverain. C'est sur les marchés secondaires, mais bon, quand même. Donc maintenant, ça c'est quelque chose que donc c'est accepté, mais c'était une grande rupture par rapport à la tradition. Voilà, je m'arrête là parce que évidemment j'ai terminé, mais l'histoire n'est pas terminée, okay, parce qu'on verra que tout ça, ça ne sert à rien à la fin. Donc ici, donc, vous voyez que donc, ce programme est étendu à l'Italie, à l'Espagne, etc. Donc ça devient énorme. Mais en fait, les marchés ne sont pas convaincus. Et alors, finalement, on va restructurer. Et la restructuration grecque va être la plus grande restructuration dans l'histoire des restructurations. Mais on fait ça seulement en 2012. Donc, entre 2010 et en 2012, il y a 2 ans, dans l'incertitude et le chaos généralisé dans lequel les pauvres Grecs vont être... Okay. Et donc, on restructure quand ils sont presque morts. Voilà, donc ce n'est pas un bon épisode de notre histoire. Mais c'est un épisode plein de leçons. Donc voilà, on va reprendre ça la prochaine fois. Merci. Voilà.